Eh bien, on va se lancer. Bonjour à tous. Bienvenue sur la table ronde Paiement, quel nouveau levier de performance pour les retailers. Je vais me présenter rapidement. Je suis Bénédicte, responsable partenariat Global Merchant chez Payplug et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Donc, chez Payplug, on a deux piliers stratégiques qui motivent toutes nos décisions et que l'on met au service de nos marchands qui sont la simplicité et la performance. C'est donc assez naturellement qu'on a voulu s'attaquer au sujet de la performance et on a surtout voulu le faire en étant très bien accompagné. Et donc, je remercie les experts qui sont autour de cette table et je vais vous laisser vous présenter si vous êtes d'accord.
Ok, je commence. Grégoire Delpy, moi je suis un des cofondateurs de Process Out, qui est un orchestrateur. Et on a la joie de travailler avec un certain nombre de personnes dans cette salle. Donc merci pour votre confiance.
Bonjour, Edouard Bedolec. Je travaille chez MangoPay, je suis sales manager. Et donc on a la chance de travailler en partenariat avec Payplug sur beaucoup de sujets, et spécialement sur l'encaissement pour compte de tiers.
Bonjour à tous, Jérôme Connac, je suis Payment Manager chez Maison du Monde.
Bonjour à tous, Alexandre Poutaro, je travaille chez Carte Bancaire, alias CB, le réseau numéro 1 du paiement par carte en France, et je m'occupe du business development sur les paiements e-commerce.
Eh bien, merci déjà à tous d'être présents. Et donc, je n'ai pas précisé, mais évidemment, vous êtes tous partenaires ou marchands de Payplug. Alors la performance, on peut la voir sous plusieurs formes. Chez Payplug, on s'applique à trouver le meilleur équilibre entre un parcours sans friction, un taux de fraude qui soit maîtrisé et un taux d'acceptation qui soit le plus haut possible. Alors ça, c'est un challenge évidemment qui est quotidien et qui nécessite de parfaitement maîtriser la chaîne de valeur de paiement et d'activer les bons leviers d'optimisation pour arriver à aller chercher chaque point d'acceptation supplémentaire. Mais la performance, elle a aussi plein d'autres visages. Et si on prend un peu de hauteur, on peut se demander quelles sont les attentes, finalement, côté marchand, d'un nouveau partenaire de paiement et comment on arrive à renverser la dynamique pour ne plus considérer le paiement comme un centre de coût, mais plutôt comme un levier de développement commercial. Et du coup, Jérôme, je me tourne vers toi pour savoir quelles sont tes attentes d'un nouveau partenaire de paiement et comment tu arrives à relever ce défi de placer le paiement dans un cadre de développement stratégique.
Donc on est en mode table ronde, hein, donc j'invite aussi mes collègues à interagir, pas chacun son tour, ça fait genre trop répéter, alors qu'on n'a pas du tout répété. Alors chez Maison du Monde, après, j'en parle beaucoup à mes confrères, autres payment managers, tous les marchands n'ont pas passé le cap de ce qu'on appelle le marketing du paiement. Chez beaucoup de marchands, déjà il n'y a pas de payment manager, c'est encore un profil assez rare. Je te vois hocher la tête, Perrine, mais c'est vrai qu'il y a encore une semaine, on en parlait. Il y a des marchands encore qui, pour eux, je connecte un moyen de paiement, c'est CB par exemple, pour ne pas dire d'autres, hein. ils sont là. Je connecte CB et ça doit marcher, et ça marche, et c'est tout, c'est une commodities. Nous, chez Maison du Monde, on est vraiment passé à le marketing des paiements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque ajout d'un moyen de paiement, c'est un B-case qui est validé par le COMEX. Donc, en fait, comme dans toute grosse boîte, le COMEX donne une route, une stratégie à suivre. Ces différents métiers déclinent ça dans des stratégies propres à son métier. Et par exemple, moi, sur l'équipe Payment Manager, on a pour but d'aller voir tous ces sponsors, toutes ces lignes de métier et leur apporter des B-case qui, bien sûr, recoupent mon domaine du paiement, mais qui vont travailler leurs objectifs. Je donne un exemple. Je travaille beaucoup avec la directrice de l'audience chez Maison du Monde, qui, au niveau audience, elle a vraiment le drive to store, l'acquisition, le SEO, etc. Et je vais l'aider sur certains pays où on a des coûts d'acquisition très forts à baisser ses coûts. Et comment on baisse ses coûts? On va travailler avec des moyens de paiement qui représentent des communautés d'acheteurs. Je vais vous en donner une que vous connaissez depuis très longtemps. Ça vous paraît comme CB, vous allez dire, c'est un moyen de paiement historique, c'est Amex. Amex, il y a 3 ans chez nous, il a été sorti. Pourquoi? Parce que le paiement était drivé par le CFO et le trésorier. Et ce n'est pas compliqué. Hein. Ils regardent la liste des comptes fournisseurs, ils regardent ceux qui ont les plus gros taux, ils les dégagent et on garde quasi que de la carte bancaire. Donc, qu'est-ce que ça a généré? Ça a généré énormément d'insatisfaction client. Un des premiers pays où on a eu des remontées, c'est l'Italie. Étonnamment, même Amex est assez étonné, mais chez nous, apparemment, les Italiens aiment bien payer en Amex parce qu'on a des paniers moyens assez élevés et que du coup, ça crée du miles, etc. peu importe. Du coup, pour réintroduire Amex, qu'on est en train de réintroduire, on a monté tout un business case pour étudier le nombre de clients, le pourcentage de porteurs de cartes Amex qui allaient être pouvoir convertis chez nous, qui sont considérés comme des nouveaux clients, l'incrémental du panier moyen, etc. Et bien sûr, dans l'équation, on met aussi le coût du moyen de paiement. Et là, on fait tout un business case en fonction des différents canaux sur lesquels on va les déployer, magasins, online, marketplace. Et le business case sort un ROI et c'est comme ça qu'on le priorise. Donc aujourd'hui, on regarde vraiment le moyen de paiement sur plusieurs aspects. Vraiment tout ce qui va être les gains business, les gains marketing, l'acquisition. Tout ce qui va être aussi notoriété de marque. Il ne faut pas rêver, hein, Maison du Monde, on le connaît tous en France. Mais en Allemagne, en fait, zéro notoriété de marque. Et c'est un marché important pour nous qu'on veut pénétrer. Italie, une petite notoriété de marque, mais pas assez, etc. Tous les pays européens, on a besoin de travailler ça. Les moyens de paiement nous apportent ça. Clairement, on sait que le jour où on va activer Apple Pay, ça va aider énormément dans la transfo parce que réassurance et tout ce qui va avec. Et ensuite, on essaie de coller aux nouveaux usages aussi. Dans cet aspect marketing du paiement, on scanne non-stop notre CSAT. Et un point étonnant pour tout le monde peut-être, on a beaucoup de remontées de clients qui nous disent « nous, on veut payer en QR code ». Quand je vous dis beaucoup, en fait, au niveau du paiement, c'est la première remontée européenne au global. De tous nos retours clients. Ça va vous paraître étonnant. Aujourd'hui, tout à l'heure, Antoine, il présentait justement l'essor et l'évolution du paiement par mobile. Aujourd'hui, vous demandez à des jeunes, essayez de faire ce petit exercice avec vos enfants, les proches, etc. Comment tu payes en magasin ? Allez, 99% vont dire, je paye en mobile ou je paye avec ma montre. Ils n'ont même plus la notion, je paye avec la carte. Ça n'existe plus, en fait. Et en fait, il y a des pays, notamment dans le Nord, la Belgique, mais aussi la Suisse, et ça commence à venir aussi en Espagne, ces retours-là. Ils ont l'habitude de payer comme avec le moyen de paiement Alipay, vous savez. Donc là, c'est du Payconiq, du Twint, qui se base sur du QR code. Et voilà. Et ça, c'est vraiment un usage qui est très fort. Et les gens disent, je veux payer un QR code. Et donc, nous, en tant que marchands, il faut qu'on se cale à ces usages-là.
OK. Grégoire, sur la partie justement simplification de l'accès à des nouveaux moyens de paiement, c'est une des attentes évidemment des marchands, je pense que tu ne me contrediras pas Jérôme, c'est une des promesses de l'orchestration, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont vous accompagnez les marchands aujourd'hui, comment vous proposez de simplifier la vie des marchands ?
Oui bien sûr, en fait je pense que Jérôme déjà l'a très bien dit, en fait l'ajout on va dire d'une fonctionnalité c'est un business case, c'est-à-dire qu'en fait il y a énormément d'impact opérationnel derrière, il y a des impacts pour la trésorerie. Et donc, finalement, en fait, cette performance dont on parlait, elle a pour moi deux éléments qui sont sous-jacents, qui sont la simplicité et la flexibilité. En gros, il faut permettre déjà de gommer la complexité technique, qui est une des promesses de l'orchestration, en fait. C'est-à-dire que nous, un des éléments qu'on mesure avec Jérémy et nos équipes, quand on développe une fonctionnalité, c'est quel est le pourcentage d'actions qui vont pouvoir être faites par le marchand en un clic. Et ce qu'on appelle du un clic, en fait, c'est sans aller voir ses équipes d'ingénieurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la ressource rare en fait, pour les équipes de paiement dans les grands groupes, ce sont les ressources d'ingénierie. Et donc, cette notion d'expansion, mais qui est en fait aussi une notion de routing, qui peut être une notion de test, qui peut être en fait, la simplicité est un prérequis extrêmement important. Le deuxième prérequis qui est important, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que, en fait, il y a des acteurs comme Payplug, je pense qu'Antoine a très bien expliqué, qui vont jouer une stratégie d'ouverture. Donc en fait, finalement, on va vous offrir des solutions, et c'est pour ça qu'on aime d'ailleurs travailler avec Payplug, et on va vous dire, en fait, venez piocher chez nous ce qui performe, et en fait, on va vous accompagner sur ce qui performe, et le reste, si vous le prenez chez quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Ok, ça, c'est assez facile. Maintenant, offrir de la flexibilité dans des environnements qui sont plus fermés, ça suppose en fait d'aller creuser dans les systèmes de paiement pour faire en sorte que vous puissiez, et de nouveau, je pense que le slide d'Antoine avec le risque, l'authentification et l'autorisation résume tout, en fait, de pouvoir aller taper chacun de ces systèmes-là de manière optimale. Et donc la flexibilité, en fait, la capacité d'avoir quelqu'un qui va centraliser les tokens, qui va centraliser en fait, un certain nombre de fonctionnalités pour vous permettre de flexibiliser complètement tous les partenaires, c'est ces deux éléments-là en fait, qui vont vous permettre derrière de travailler sur les stratégies de performance. Et là, on rentre après sur évidemment toute la valeur qu'on peut créer et comment est-ce que le paiement devient, on va dire, un facteur de croissance et plus un centre de coût.
Et il y a aussi un point, juste sur la partie orchestration, il y a un point clé qui est qu'il y a une notion de zéro capex. Quand on active un nouveau partenaire de paiement, étant donné que le marchand est connecté à l'API de ProcessOut, en tout cas de l'orchestrateur choisi, du coup, derrière, on passe, et c'est ce que tu disais, Jérôme, quand on a préparé, d'un mode projet à un mode activation. Et du coup, je te laisse développer, puisque c'est
ouais, j'allais rebondir là-dessus, parce que c'est... Tu l'as dit, en fait, un des gros freins, moi, quand je fais des business cases, et comment le business case peut être hyper héroïste, hyper intéressant. Le problème, c'est que si on a trop de charges pour le build, pour connecter le moyen de paiement, ben, en fait, on a un autre frein, c'est que les ressources sont rares et partagées. Donc, le projet va sûrement se faire déprioriser, peut-être par un projet qui est moins héroïste, mais beaucoup plus important dans la stratégie de la boîte. Donc, c'est vrai que nous, on est en train de basculer cette semaine sur un orchestrateur, dont je tairai le nom. Mais en tout cas, on a décidé de passer sur cette stratégie orchestrateur pour deux choses. Parce que ça va gommer nos capex, donc toute cette charge. Et on va passer plus dans un mode activation, alors qu'aujourd'hui, on est en mode projet. Chez nous, mettre un moyen de paiement sur toute l'Europe omnicanal, c'était un projet à peu près entre 6 et 9 mois. Là, avec quand même l'activation, la petite recette et tout, on va partir plutôt sur quelque chose de 3-4 semaines par activation. Ça, c'était la première chose. Et la seconde chose, parce que ça, au final, l'activation, on peut l'avoir avec des solutions full service qu'on avait jusqu'à maintenant. On avait Payplug en full service. Il y a d'autres grosses solutions européennes full service qui ont déjà connecté beaucoup de moyens de paiement. Mais on avait une volonté d'être en direct avec les moyens de paiement. Amex, PayPal, Alma et d'autres futurs. On ne voulait pas passer par un PSP qui font l'agrégation, qui vous font signer le contrat avec leurs conditions, etc. Nous, on voulait des négos parce qu'on a une démarche partenariale où on se met des médias plans toute l'année avec des moments de contact avec les communautés d'acheteurs, etc. Donc, c'était aussi notre intérêt de passer par un orchestrateur.
Ok. Et là-dessus, je reviens aussi sur la... Tu voulais... Excuse-moi,
non, en fait, je t'en prie. Je suis d'accord. Un de mes gros entre guillemets sujets de bataille, enfin cheval de bataille, c'est que notre job, c'est de créer de la simplicité. C'est pas non plus de raconter n'importe quoi sur ce qu'est la simplicité. C'est-à-dire que, et je pense que c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que l'idée, c'est de gommer les freins. Ça gomme pas le travail. C'est-à-dire que pour délivrer de la performance, pour délivrer, on va dire, de la conversion et de ces éléments-là. En fait, une fois que vous avez un orchestrateur en place, oui, effectivement, vous pouvez connecter rapidement les tuyaux. C'est-à-dire que OK, en gros, quand je dois expliquer à ma grand-mère ce que je fais, parce qu'elle pense que j'ai créé PayPal, donc j'essaie d'expliquer que ce n'est pas le cas, c'est qu'en gros, au lieu de repercer le mur à chaque fois pour faire la prise, en gros, vous avez évité d'aller repercer le mur. Donc vous avez gagné du temps, mais ce n'est pas pour ça que tout le système électrique derrière fonctionne de manière optimum. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ce sujet qui est important, c'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'il y a des tuyaux sur lesquels ça va fonctionner en quelques semaines. On va pouvoir faire les branchements, on part ça. Moi, mon job aussi, il est toujours d'essayer d'expliquer à nos clients ce qui va arriver derrière. Et donc, en fait, on va faire la connexion très rapidement. Et puis après, on va travailler en fait, pendant des mois ensemble, et notamment avec Payplug et d'autres partenaires, pour faire en sorte en fait, que ce qui coule dans ces tuyaux-là, ce soit en fait, parfaitement, optimisé pour délivrer de la performance. Etc. Donc, en gros, on gomme la complexité d'un point de vue ingénieur, ce qui est déjà une énorme... mais on ne gomme pas, entre guillemets, toute la complexité du payment manager. Et je pense que garder la relation en direct est très importante.
Ouais, alors, ne te trompe pas, ce que je disais, les 3-4 semaines, c'est chez Maison du Monde, une fois qu'on a dessiné le moyen de paiement, qui est bien connecté de bout en bout avec la réconciliation et tout. Donc, le travail de l'orchestrateur est lourd à la connexion et surtout lourd à la maintenance. J'ai travaillé dans une autre vie sur ce milieu-là de connecter des milliers de paiements alternatifs et enfin, centaines, on va dire. Et c'est très consommateur, très, très coûteux. Donc, je vois bien le travail qu'il y a derrière.
Je rebondis juste sur ce que tu avais dit, Jérôme. À un moment donné, tu as parlé de notoriété de marque et de communication et notamment de moderniser aussi le parcours client. Alexandre, sur la partie CB, vous agissez aussi sur cette partie notoriété de marque. C'est hyper important pour vous. Je sais qu'il y a tout un programme qui est en place. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Alors, tu as raison, Bénédicte. CB, pour beaucoup de gens, ça ne parle pas beaucoup. CB, c'est quoi ? C'est carte bleue, c'est mon truc là, que j'ai dans mon portefeuille. Carte bleue, Mastercard, Visa. Les gens lambda ne comprennent pas. 99% des personnes lambda ne comprennent pas. Nous, notre stratégie chez CB, c'est plutôt être focus sur les marchands. plus que sur les consommateurs. Ça n'empêche pas qu'on ait fait une campagne de communication dans le métro, dans la presse, je ne sais pas si vous avez peut-être vu, autour du chou, du miel, des radis, des pots de fleurs, etc. C'est le payer made in France. Néanmoins, il va nous falloir beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent si on veut faire de la pédagogie auprès des consommateurs. Et encore, je ne suis pas convaincu que ça soit utile, parce qu'avant tout, c'est le commerçant qui va payer la commission de paiement. Ce n'est pas le consommateur final. Pour lui, ça ne change strictement rien. Que je clique sur CB, Visa ou Mastercard, rien ne change. Peut-être Amex, parce qu'Amex, il y avait des points, machin. Mais Amex, on ne considère pas comme un concurrent. Nous, nos concurrents, ce sont Visa et Mastercard. Ensuite, il faut rester attractif pour vous, marchands. Tu le disais, Jérôme, il faut marketer ta solution de paiement. Et historiquement, CB, on était connu, on était bon sur le prix. CB, sur les coûts de skim, on est 3 à 10 fois moins cher que nos concurrents. Okay ? Néanmoins, ça ne va pas suffire dans l'avenir. Il faut aussi qu'on soit plus performant. Et c'est pour ça qu'on s'entend très bien avec Payplug, et voilà, on a un ADN, une stratégie commune, c'est qu'on va jouer sur comment CB peut vous aider en tant que commerçant à avoir une meilleure performance, une meilleure conversion. Sur 100 paiements, combien vont aboutir en succès? Et pour vous, 1% de paiements convertis en plus, c'est 1% de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est notre priorité numéro 1. Voilà, c'est dans l'avenir, il faut que la performance de CB soit toujours meilleure que celle de nos concurrents. Ensuite, on a deux autres points forts qui sont finalement le taux de fraude. Le taux de fraude d'une transaction CB, elle est inférieure à celui des autres réseaux. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque de France dans son rapport au SMP. Et seulement, là je le mets en troisième plan, c'est le coût. Voilà. Et je vous rassure, le coût ne va pas augmenter chez CB. Il a même baissé en 2023 pour les PSP. Et on tient à vraiment garder cette efficience, hein, ce modèle à prix coûtant. Parce qu'il faut le savoir, CB, ce n'est pas une société anonyme. On est une petite PME, mais on est en mode GIE. C'est-à-dire que dans notre modèle, on n'a pas le droit de faire de bénéfices. On travaille à prix coûtant pour la communauté des banques et des PSP comme Payplug. Voilà. Donc nous, notre stratégie, c'est ça, c'est meilleure conversion, moins de fraude et puis des coûts qui restent attractifs pour vous, les commerçants. On travaille aussi main dans la main avec les PSP comme Payplug pour faire des revues de performance. Voilà, on prend des commerçants tu vois, comme Maison du Monde, on regarde dans le détail avec notre expertise, votre expertise, l'expertise du PSP pour dire ben voilà, ça peut être amélioré. Et puis, ben, on s'assure que Jérôme puisse toujours aller vendre à sa direction, que CB est meilleur, qu'il faut garder le bouton CB. Voilà.
Je rebondis moi, sur ce que tu dis, parce que nous, ce qu'on constate chez Maison du Monde, et c'est valable dans tous les pays, et en France particulièrement, la part pour du paiement bancaire, bien sûr, c'est CB qui est largement devant, mais la part des paiements par carte bancaire diminue de mois en mois. Aujourd'hui, on a moins de 50% de nos flux qui passent par de la carte bancaire. Et du Visa, Mastercard et la Total.
Alors, qu'est-ce que tu as comme autre...
On a des paiements plusieurs fois. C'est plus de 25% de nos flux. J'ai du PayPal. C'est à peu près 13% de mes flux. En France seulement, je parle. Parce qu'après, Italie, c'est stratosphérique. C'est beaucoup plus haut en Allemagne, encore plus. J'ai 13%. Après, j'ai nos propres cartes cadeaux, un peu de bons d'achat, avoir, du virement. J'en ai 4 à 5%. Donc,
En fait, si je peux rebondir sur ce que tu disais... C'est un autre point sur le paiement comme levier de performance. En fait, il ne faut plus voir les méthodes de paiement et les systèmes de paiement comme un outil simple. Et l'exemple type, alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais actuellement, partout dans le monde, le moyen de paiement qui progresse le plus, c'est le paiement par wallet. Donc des gens type des Klarna, des PayPal, des Afterpay, etc. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y a une méthode vertueuse qui est en train de se mettre entre ces fournisseurs de méthodes de paiement alternatives et les retailers, c'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant. Ce pourquoi des gens comme PayPal est considéré comme une méthode premium, c'est qu'ils amènent une sécurité pour leurs clients. Donc, ils amènent des corps de clients qui sont des PayPal aficionados. La même chose que sur des Klarna. Tout ça dans la logique de wallet où ils ont des offres spéciales pour leurs clients. Et ça amène des cohortes qui, forcément, n'achèteraient pas tout de suite d'eux-mêmes via des paiements classiques qu'on peut considérer comme un outil, comme la carte, comme le virement et autres. Et c'est aussi ce qui fait la valeur de la chose. C'est, si on reprend l'exemple de PayPal, la création de PayPal, c'est quoi? C'est en 98, les gens avaient peur de laisser leur numéro de carte autre part que sur ncsf.com, donc ils ont créé un wallet pour sécuriser ça. Ce qui fait que ça leur amène des gens qui sont aficionados de ça parce qu'ils ont la sécurité PayPal. Et en plus, ça leur amène une cohorte qui n'utilise à peu près que ça. Tu prenais l'exemple de 13% des gens chez Maison du Monde qui utilisent du PayPal. Grosso modo, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est à peu près 15% des web acheteurs en France. Et ce qui fait qu'ils sont dans une, comment dire, dans une logique de maximiser leur cohorte parce que c'est ce qu'ils amènent et c'est la valeur et c'est comme ça qu'ils considèrent et qu'ils justifient le côté premium de cette méthode de paiement. Si on prend l'exemple, pour revenir sur des Alma ou des Klarna ou du BNPL, pourquoi PayPal met gratuit son BNPL? Parce que pour eux, c'est un accès de recrutement de clients et de users PayPal plus qu'une ligne de profit, en fait, par rapport à un BNPL, j'ai envie de dire, plus classique et plus historique. Donc, en fait, il y a vraiment ce shift et en ce moment qui est qu'il y a des nouvelles méthodes de paiement qui sont des leviers d'acquisition client et pas juste des outils, en fait.
Ouais, moi, j'appelle ça des communautés d'acheteurs. Et ouais. En effet, tu as complètement raison. Et on va commencer, comme ça, on pourra switcher sur le prochain point. Mais je vais vous donner un exemple en Allemagne. En Allemagne, il y a une mauvaise notoriété de marque. On a des produits chers. 70% de nos paiements, c'est PayPal.
Et parce que PayPal est aussi hyper fort en Allemagne.
Hyper fort en Allemagne. Mais peu importe, il y en a d'autres, des moyens de paiement ouais, assez forts. Je devrais pouvoir rééquilibrer. Sauf qu'ils apportent la garantie du paiement. Déjà, ils sont tous équipés en PayPal en Allemagne. Ça, c'est clair. Grosse notoriété de confiance auprès des consommateurs. Et ils les protègent. Voilà. Et donc, ce que tu dis de l'époque de 98, c'est toujours valable au final. Parce que les gens, ils ont pas peur de laisser leur carte. Ils ont plus peur du marchand. Et du défaut du marchand, je pense, dans certains pays. Donc voilà. Ah bah... et après, juste pour essayer d'aller switcher un peu, mais c'est bien beau. En effet, la carte baisse partout chez nous, dans tous nos pays, et même en France, qui m'étonne le plus. Mais je te rejoins sur un point, c'est que la carte, on a une super performance au niveau de la transfo. Et PayPal, avant, on avait une super perf, et là, on est en train de chuter dans tous les pays. Depuis 10 mois, j'ai perdu quasi 10 points. C'est énorme. Hein. Imaginez 10 points d'accept. Ça fait très mal sur certains pays majeurs chez nous. C'est des sujets qui sont remontés jusqu'aux États-Unis qui sont pris. Ce n'est pas de Maison du Monde hein, qui a fait remonter. On est beaucoup de marchands à s'être plein de ça, qui est un phénomène. Et ça, en fait, je l'ai chez un peu tout le monde. On a du Alma, 25% de nos flux. Ça se passait très bien les premiers mois. L'inflation est arrivée, le risque a explosé, chute de la transfo. Alors, ça continue à me prendre un gros pourcentage, mais ce que je sais, c'est que j'ai des clients qui viennent, qui se font jeter par PayPal parce qu'ils proposent X fois en plus, parce que ça se passe mal avec PayPal au final, ou par du Alma, et ces gens-là, je les perds. Voilà. Et là, c'est plus pour le point suivant, c'est super de se coller aux usages, aux nouveaux usages, aux communautés d'acheteurs, de chercher du marketing, mais c'est comment on pilote tout ça pour rester performant.
Exactement. Et en fait, là, on a parlé de comment on choisit bien ses partenaires de paiement. Une fois qu'on a fait ça, comment on pilote tous les moyens de paiement et comment on arrive à trouver les bons leviers pour arriver à les optimiser au maximum. Et là-dessus, Jérôme, est-ce que tu peux nous dire également comment ça se passe sur Maison du Monde ?
Je parle beaucoup, mais il y en a qui sont habitués. Et après, comme ça, je laisserai. Mais là, je vais vraiment vous ouvrir aussi à vous. Ben en fait, il y a deux politiques, deux stratégies. La stratégie qu'on fait, par exemple, aujourd'hui avec PayPlug, où on travaille avec l'account manager, avec Ulysse, qui est là-bas, que je félicite pour tout son boulot chaque semaine. On a un fraud manager, on travaille hyper finement, on optimise. Il y a des bugs, il y a des bugs techniques à droite, à gauche, sur toute la chaîne, qui est hyper longue. Donc, il y a tous les émetteurs, les problèmes de TRA, mais qui vont... aux ACS, donc pour tout ce qui est le 3D Secure, pour ceux qui ne sont pas, etc., etc. Il y a vraiment trop de blocs qui peuvent péter et ça peut être par acquéreur.
C'est pour ça qu'on a mis en place FastPass aussi, pour arriver à bypasser
ouais.
L'ACS.
Alors ça, on y vient après. Mais... Donc il y a ce problème de chaîne hyper longue qui peut péter de partout et ce n'est pas parce que ça peut être chez un acquéreur que ça peut être chez l'autre. Donc nous, on a trouvé la solution. Hein. On va prendre un orchestrateur, on met tous les acquéreurs qui ont chacun leur route, il y en a un qui pète, il est déconnecté et l'orchestrateur bascule sur l'autre. Et en fait, on va se baser là-dessus pour optimiser nos taux d'accept plutôt que d'aller travailler finement chaque route qui pète. Et on va laisser en gros les hackers faire leur boulot d'améliorer toute leur chaîne. Et quand leur chaîne est assez performante, ça switch. Et là, on parle vraiment que de la carte cette fois, que des cartes bancaires, mais qui reste encore un des plus gros flux et qui est le plus performant si on arrive à bien optimiser.
Juste là-dessus, c'est un truc qui est assez intéressant dans la relation que, on va dire, les marchands vont avoir avec leurs providers. C'est que cette notion d'être capacité de faire un switch, en fait, au début, beaucoup de gens ont tendance à le voir de manière négative. En fait, et je pense que certains acteurs dans la salle ne me contrediront pas, en fait, c'est extrêmement sain parce que ça diminue le niveau de pression quand il y a un problème. Être opérateur de paiement, être prestataire de paiement, honnêtement, c'est un enfer. C'est un super business, mais le niveau de pression quand il y a un problème un dimanche à midi, parce qu'évidemment, ça ne se passe jamais au bon moment, ce type de problème-là, en fait, vous êtes super content quand vous êtes l'opérateur d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez avoir un backup et switcher, parce qu'en fait, ça permet à vos équipes de régler calmement les problèmes. Et donc, je pense qu'il faut vraiment le voir de manière positive, parce qu'en fait, cette capacité à diminuer la pression dans les systèmes qui sont extrêmement sous tension permet aux gens de délivrer une meilleure qualité avec moins de pression. Parce qu'il faut savoir que nous, nos équipes, tantôt on en rit avec Jérémy, mais un jour, notre CTO, je lui demande, t'as bien dormi ? Il m'a dit oui, on a eu un problème à 4h du matin, je me suis réveillé à 4h03, il est très réglé. Et là, je me suis dit, ok, on a vraiment un problème. Le type, à 4h du matin, son réveil sonne, il allume son ordinateur, à 4h03, le problème est réglé. Moi, le réveil sonne à 4h du matin, je suis déjà en train de chercher la machine à café pour comprendre ce qui se passe. Et c'est ça, en fait, la pression du paiement. Et donc, je pense que cette logique aussi de mettre un orchestrateur et de mettre des gens, en fait, qui vont permettre de switcher les flux quand il y a des problèmes, en fait, ça diminue énormément le niveau de pression avec vos prestataires et ça améliore, en fait, la qualité des discussions parce que ça apporte du temps pour régler les problèmes. Et des problèmes, il y en a forcément parce qu'un système technique, ça a intrinsèquement toujours des problèmes.
Et la pression sur le payment manager aussi, parce qu'au-dessus, tu as des boss, quand ça ne fonctionne pas, c'est ta gueule.
Et une question à votre niveau, est-ce que vous avez une gestion intelligente des moyens de paiement qui sont proposés? C'est-à-dire qu'un acheteur, en fonction du montant, en fonction de son pays, en fonction de son historique aussi auprès du marchand, est-ce que vous allez lui dire, tiens, je vais plutôt l'orienter sur ce moyen de paiement parce que je sais qu'il a une meilleure perf et je vais masquer les autres, et à l'inverse, là, vu le panier, j'ai peut-être finalement étendre l'arbre de Noël, parce que c'est ça, à un moment donné, les pages de paiement, ça ressemble à un arbre de Noël, il y a tellement de boutons, on ne s'y retrouve plus. Et justement, est-ce que vous avez de votre côté des gestions dynamiques justement des différents boutons et dire là je l'affiche ou je l'affiche pas?
En fait, cette question pour moi elle reflète l'évolution de ce qui a été la performance dans les paiements dans les dernières années. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, en fait, tout le monde parlait d'autorisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parlait de performance, pourquoi? Parce qu'en fait, les providers parlaient de couverture géographique. C'est-à-dire que la course entre les providers à l'époque, c'était offrir la couverture géographique il y a 10 ans. Je trouve que l'analogie est très bonne. En fait, PayPal démarre avec la sécurité. Ensuite, on a les gateways où les banques se disent, ah, tiens, on veut s'y intéresser, donc en fait, on va faire de la simplicité technique. Ensuite, on a la génération en fait des entreprises qui comprennent en fait que le CTO est un acheteur et du coup en fait pousser celui-là. Et après, on a l'échelle de la couverture géographique. Quand nous on démarre Process Out et qu'on dit qu'on fait de la performance, en fait, on se focus sur l'autorisation. 2 ans après, 3DS2, et à ce moment-là, en fait, on commence à se focus sur l'authentification. C'est-à-dire que la performance, tout d'un coup, devient un mix des deux. Énorme boulot de la part de tous les acteurs du marché, parce qu'en fait, en tant qu'orchestrateur, nous, finalement, le niveau monte tous les ans. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce que c'est la performance? En fait, la performance, c'est 3 choses. La conversion, qui va être effectivement, en fait, tous les KPI sous-jacents sur ce sujet-là. Ça va être le coût de bouger l'argent, parce qu'en fait, en fonction des solutions qui vont être utilisées, il va y avoir différents coûts. Et ça va être la vitesse de ce mouvement d'argent. Parce que de nouveau, pareil, en fonction des solutions que vous allez utiliser, il va y avoir différents écarts. Et en fait, ça veut dire que d'un point de vue technologique, alors que nos systèmes avant et nos algorithmes étaient très, très optimisés pour aller pousser de l'autorisation, on remonte et en fait vers ce que nous on appelle chez nous le dynamic checkout, qui est en fait cette logique d'être capable de construire une stratégie de paiement en fonction en fait d'un profil de risque, d'un profil de coût et d'un profil en fait d'appétence de conversion. Et donc typiquement, le cas extrême, c'est évidemment on fait pas ça, mais je suis à 100% sûr que c'est un chargeback, mais je veux quand même essayer le paiement. Surtout ne pas pousser un rail sur lequel il y a le chargeback. En fait, c'est évidemment pas ce qu'on fait, mais c'est un peu cette logique-là, en fait, de donner complètement le pouvoir au payment manager en lui disant, finalement, tu as 3 scores ou tu as 3, on va dire, paramètres sur lesquels tu peux jouer. Et en fonction de ça, finalement, nous, de donner ces outils-là. Donc, ouais, c'est exactement ça.
Sur la partie, j'en profite aussi, sur la partie relation, puisque finalement, l'orchestrateur, c'est la couche technique. Il y a une dépendance avec les acquéreurs et les partenaires avec lesquels vous travaillez, notamment les partenaires de fraude. Comment ça se passe, la collaboration? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je sais que c'est capital aussi. Pardon, j'ai oublié le micro. je sais que c'est capital aussi, cette collaboration, pour que tout marche. Est-ce que tu peux élaborer sur ce point?
Alors, en fait, sans rentrer entre détails techniques, mais il n'y a pas de magie dans le paiement, en fait. Dans le paiement, il y a un message, on va dire, qui se balade en fait, dans un réseau, ce qu'on appelle l'ISO message. D'accord, il y a des centaines de champs qu'on peut remplir. En fait, chacun des acteurs de la chaîne va pouvoir, d'une manière, pour faire très simple, va pouvoir écrire, en fait, ou apporter des éléments qu'on va écrire dans ce message. En fait, à la fin, celui qui tient quand même le message, c'est l'acquéreur. Donc, typiquement, c'est vous. En fait, ça revient un peu à jouer au jeu de « je te passe un papier ». Évidemment, si chacun se passe des papiers fermés, bon, à la fin, c'est moins bien que, en fait, si on se passe le papier de manière ouverte et qu'en fait, on essaie de corriger ensemble les éléments. Et donc, les boîtes qui vont faire du scoring de fraude, finalement, vont aider à donner des scores qui vont nous permettre de comprendre, finalement, quelles sont les options sur la table qui vont être plus ou moins intéressantes. Les boîtes qui vont faire de l'authentification vont nous aider, finalement, à comprendre quelles sont les options et quel va être l'impact en termes de friction, mais aussi quel va être l'impact en termes de perception par le modèle de risque de l'issueur, parce que c'est un autre modèle de risque. Et puis, évidemment, l'acquéreur qui, en fait, tient quand même le carnet de tout ça et qui va écrire, s'il vous dit comment il écrit et quel message il passe, ça aide tous les acteurs du marchand, en fait, jusqu'à l'issueur et en passant par le scheme. C'est vrai que nous, les acteurs avec lesquels on a livré la meilleure performance sur le marché, ce sont les acteurs, en fait, où on est 4 ou 5 à s'asseoir dans une salle et à regarder ensemble les messages et à se dire, OK, en fait, pourquoi cette transaction où, en fait, on se dit tous qu'elle devrait être acceptée ne passe pas? Pourquoi cette transaction où on pensait tous qu'elle ne serait pas acceptée passe? Donc voilà.
OK. Et c'est hyper indépendance, et c'est hyper intéressant, pardon, cette dépendance dans la chaîne. Côté carte bancaire, vous avez aussi des actions pour arriver à optimiser et à réduire la friction au niveau du paiement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, surtout que vous avez été très actif ces derniers temps, qu'il y a pas mal de produits qui sont arrivés. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont faites, autant auprès des acquéreurs que auprès des commerçants. Et voilà, je te laisse la parole du coup, Alexandre, je t'en prie.
Merci Bénédicte. Et puis on va essayer d'être très concret. Hein, parce qu'on parle beaucoup de performance, de conversion, mais oui, mais derrière, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que ça fonctionne? Tout à l'heure, je l'ai dit, on travaille beaucoup avec Payplug parce que c'est dans notre ADN, la performance, offrir aux marchands le taux de succès le plus élevé. Okay. Pour y arriver, Antoine en a parlé tout à l'heure dans sa présentation, c'est les gains marginaux. C'est-à-dire qu'on va les regarder dans chaque étape, à l'authentification, à l'autorisation, qu'est-ce qui peut être amélioré, quelles sont les données que finalement que le marchand peut nous valoriser dans le protocole qui vont permettre à l'émetteur de dire oui, ok, je laisse passer. C'est ça le but. Et donc, pour répondre à ça, on a eu tout récemment chez CB la création d'une direction commerciale, entre guillemets, commerciale, mais parce qu'on ne voit rien en direct, tout passe par des gens comme Payplug, des commerciales pour accompagner déjà les PSP, mais aussi les marchands. Et on travaille aussi dans des cadres, je dirais, à la fois bilatéraux, avec des marchands, ou avec des PSP, pour dire, tiens, ce petit truc, on peut le fine-tuner, et puis aller gagner le petit point de pourcentage. Et on apporte notre expertise au bénéfice de la communauté. Plus concrètement aussi, on a mis en place des programmes de confiance. Des programmes de confiance, où c'est CB confiance, où c'est CB qui va dire, tiens, ce commerçant est de confiance. Alors, monsieur l'émetteur, monsieur BNP, monsieur Société Générale, monsieur Crédit Agricole, vous accordez un 100% ou un 100% ou un 95% de frictionless lorsqu'il en fait la demande. Parce qu'on a confiance en sa gestion du risque. Et donc, voilà, il faut fluidifier le parcours. Et ça permet aux marchands de reprendre la main sur le circuit de paiement. D'accord ? Donc on a parlé du travail d'optimisation, le travail du programme de confiance, auquel Payplug finalement est un grand prescripteur, il nous apporte beaucoup de marchands. Et puis il y a un troisième volet qu'on va lancer en début d'année prochaine, ça va être un nouveau service qu'on va mettre à disposition des commerçants en direct, qui va être une sorte de tableau de bord, un portail sur lequel vous, marchands, vous aurez accès à des KPI sur votre performance de paiement, à la fois côté authentification 3 et Secure, côté autorisation. Alors ces stats, sur CB, vous connaissez vos propres chiffres. Voilà, y a Payplug qui vous met des beaux outils. ProcessOut aussi vous met en place des portails bien plus jolis et bien plus complets. Mais la valeur qu'on va apporter, nous, dans ce dispositif, c'est qu'on va être capable de benchmarker votre performance par rapport à la moyenne de votre secteur d'activité. Carrefour va pouvoir benchmarker ses chiffres par rapport à l'ensemble de ses concurrents. Et peut-être qu'un 95% de frictionless, c'est très bien. Mais en fait, peut-être que dans cette activité, c'est peut-être pas assez. Il y a peut-être des choses encore à gratter. Et puis, ce même portail va aussi vous aider, vous recommander automatiquement des bonnes pratiques pour dire, si tu veux améliorer tel indicateur, il faut plutôt procéder de telle façon, il faut plutôt valoriser telle ou telle donnée. Voilà. Et cette démarche, elle est avant tout pédagogique. C'est pour vous aider à monter en compétence, vous marchand, sur les sujets, pour qu'ensuite vous puissiez aller voir votre PSP, votre orchestrateur, et lui dire, cette donnée-là, je ne comprends pas, moi je pense la valoriser. Pourtant, à un moment donné, elle se perd dans la chaîne. Parce qu'on rajoute tellement d'acteurs, qu'au final, c'est bien d'avoir le scheme, finalement, qui a une vision un peu, centrale, qui prend de la hauteur, et qui va dire, toi, tu penses que tu m'envoies cette donnée-là et que tu vas gagner de la performance. En fait, moi, je ne la reçois pas. Et donc, ça va nous aider aussi collectivement à gagner de la conversion.
Juste peut-être pour expliquer, parce que je pense que ton exemple est très bon. En fait, quand on dit tu penses que tu envoies la donnée mais que tu ne la reçois pas, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois certains acquéreurs qui ne vont pas jouer à livre ouvert, en fait, vont avoir intérêt à ne pas passer une donnée. Parce qu'ils vont juger soit que la transaction est risquée, soit parce qu'en fait, ils vont juger que leur système ne supporte pas cet élément-là. Et du coup, ils vont bloquer la transaction à leur niveau. Et ça, c'est vraiment un truc en fait, qu'il faut aller comprendre et qu'il faut aller chercher. Parce qu'en fait, vous avez trois systèmes qui cohabitent, l'acquéreur, le scheme et l'issueur, en fait, qui vont chacun avoir leurs propres enjeux et leurs propres règles du jeu. Et ça, c'est vraiment un élément qui, en tant que marchand, en fait, si vous voulez reprendre le contrôle sur la performance de vos paiements, et c'est de nouveau, pour ça qu'on travaille beaucoup avec vous, c'est que Payplug fait partie des acteurs qui jouent à livre ouvert. C'est-à-dire que si on leur demande un ISO message, ils vont nous l'envoyer. Donc en fait, si on leur demande de nous passer le message qu'ils ont envoyé au scheme, ils vont nous l'envoyer. C'est pas le cas de tout le monde. En fait, il faut absolument arriver à avoir cette transparence là. Parce que comme ça, en fait, vous allez pouvoir voir effectivement ce que tu décris, à savoir quand moi je déclare que c'est comme ci, comme ça, est-ce que l'autre le change parce qu'en fait il y a un intérêt économique, parce que les schemes vont avoir des prix qui vont changer en fonction de ce qu'on envoie. Est-ce que l'autre le change parce qu'en fait il a intérêt à protéger un niveau de chargeback. Enfin, il y a plein d'éléments en fait et de conflits, et donc il faut vraiment aller rentrer en ces moments. Effectivement, je me permets d'insister, mais c'est très très important ce sujet-là. Et effectivement, pouvoir travailler avec un scheme, ça a énormément de valeur. Moi, ce que je dis à tous mes clients, c'est quand le scheme vient vous proposer de bosser avec lui, allez-y. Parce qu'en fait, finalement, vous avez le point central, vous avez le réseau. Et donc, en fait, si vous pouvez lire la donnée du réseau, vous lisez le message.
Sur la data, moi, un exemple que j'aime toujours bien prendre, c'est quand un commerçant fait une demande de frictionless sous le réseau CB, en moyenne, il l'obtient dans 85% des cas. Okay, ça, c'est la stat globale, tout marchand confondu. Si l'adresse IP, par exemple, est absente dans le protocole 3 et Secure, ben ce 85%, on l'oublie. 5%, on l'oublie. On tombe plutôt à 20-30% de frictionless. Et puis à l'inverse, quand le commerçant a valorisé, le numéro de téléphone du client, l'adresse email utilisée pour la commande, l'adresse de livraison, le mode d'expédition, et ben là, ce 85%, il va pouvoir monter jusqu'à 95% de frictionless. Voilà. Comme quoi, et ça, c'est un message qu'il faut faire passer à chaque instant, c'est valoriser des données dans le protocole, ça aide à la fois pour votre taux de frictionless, mais ça va aussi aider pour mieux lutter contre la fraude. Et on va en parler un petit peu plus tard.
Oui, tout à fait. Il y a juste un dernier point sur ce volet-là de l'optimisation et de la performance. Pour les marketplaces, la performance, elle ne s'arrête pas au pay-in, et l'optimisation des moyens de paiement, ça ne s'arrête pas juste au pay-in. On a la partie payout, et du coup, je me tourne vers toi, Edouard, puisque tu sauras en dire un peu plus là-dessus. Quels sont les leviers d'optimisation que vous proposez sur toute la chaîne, finalement, au service des marketplaces, pay-in et payout?
Alors, premier enjeu, je pense, et ça rejoint le point juste avant, c'est le sujet de gestion de la fraude. La fraude sur la fraude au paiement est quelque chose qui globalement de mieux en mieux maîtrisé par tous les acteurs. Mais l'enjeu principal derrière, c'est plus d'avoir une bonne balance entre bloquer les vraies fraudes et ne pas avoir trop de false positives. Et ce qui fait que la fraude au paiement, comme elle est de mieux en mieux gérée, se déporte sur d'autres fraudes en amont. Le vol de compte, les fraudes au colis, peu importe, plusieurs choses. Ce qui fait que ce qui est assez important, c'est justement, enfin, toujours dans la logique d'interconnexion des infos, du fait que plus les livres sont ouverts, plus ce sera simple d'interpréter, d'avoir un moteur de règles qui soit le plus performant que tout ce qu'on voit avec, alors c'est un mot un peu fourre-tout, hein, mais l'intelligence artificielle se nourrisse de ça. Ce qui fait que nous c'est ce qu'on dit en premier lieu. Après, la performance, c'est quand même votre métier à part entière en premier, dans le sens où, d'ailleurs, Antoine l'a très bien résumé dans sa keynote juste avant. Enfin, les acquéreurs PSP qui vous disent qu'ils sont les meilleurs partout, ça n'existe pas, en fait, c'est pas vrai. Donc, y a un truc vertueux aussi à travailler avec des gens comme Process Out et d'avoir un modèle, j'ai envie de dire, plus vertueux, plus sain aussi, plutôt qu'avoir des relations de PSP à marchand avec un PSP de backup qui veut vous gratter quelque chose derrière et qui aussi n'est pas content d'avoir sa position de PSP de backup, où là il y a un vrai modèle vertueux. Et après, sur le sujet de optimisation, dans le cadre de nous, ce qu'on fait chez MangoPay, où notre métier est différent de celui de Payplug, où la brique où on a une expertise, c'est justement sur la ventilation, sur la gestion complexe des flux en aval. Et ben, ça passe par justement être flexible, pouvoir orchestrer ce qui arrive justement des orchestrateurs et du pay-in de manière flexible pour générer de la satisfaction aussi auprès de vos prestataires tiers, vos vendeurs, qui leur permet, je vais dire une chose très simple, mais moi je suis un vendeur marketplace, demain j'ai un gros inventaire sur la marketplace de Maisons du Monde, je peux avoir une optimisation des paiements et de l'argent que je touche, j'optimise mon merchandising, j'optimise mes stocks, j'optimise mes ventes, et il y a un sujet, un cercle vertueux qui boucle la boucle, si je puis dire. Mais tout ça, au final, ça revient à, je pense, le point central de ce qu'est le monde du paiement, c'est l'interconnexion qui change tout, en fait. Et c'est vraiment le nerf de la guerre, et même avant l'avènement des orchestrateurs, l'interconnexion, c'est vraiment le pierre angulaire que les choses fonctionnent. Et comme ça a été très bien résumé de la vision centrale du scheme, si on n'a pas l'entièreté des infos, ça bloque un moment, tellement il y a d'acteurs au milieu.
Il nous reste un dernier sujet. Et pas des moindres, la fraude. Aujourd'hui, c'est les banques qui ont la décision finale sur l'acceptation d'une transaction. Donc sans une vigilance accrue sur la fraude, le taux de conversion, il est inévitablement impacté. Nous, on a un rôle à jouer là-dedans. Ça dépasse évidemment les frontières du paiement, hein, c'est ce qu'on s'est dit. Du coup, Jérôme, je te laisse la parole pour savoir comment vous luttez efficacement contre la fraude chez Maisons du Monde.
Alors, au final, au niveau de la fraude, elle est, enfin, vous le savez, en tant que marchand, elle est partout. On reviendra où c'est qu'elle se présente le plus en ce moment. Au paiement, plus trop.
Est-ce que c'est parce qu'on a été très bon?
Tu parles de qui?
Bah de nous, Peplug.
Aïe. On a dit table ronde, hein, c'est pas. Oui, j'ai un fraud manager. On a décidé d'externaliser ça chez Peplug parce qu'on ne le voulait pas, notamment chez nous. Parce que c'est un vrai métier. Et du coup, Olivier, avec qui on travaille chez Peplug, le fait très bien. Le job est bien fait. Mais au final, comme dès qu'on a des doutes, hein, on met du 3DS. On en rejette une partie, mais on met surtout du 3DS. Résultat, nous, en tant que marchands, grâce au 3DS, on est payé. Mais la fraude, elle est bien là. Mon terrain, donc la note de fraude est pas si bonne parce que le consommateur qui s'est fait frauder sa carte plus tous ses accès à ses comptes bancaires, donc au final le fraudeur il est juste en train de faire le 3DS et tout passe. Mais moi ça me pénalise, pas financièrement, mais ça me pénalise parce que CB veut pas me passer sur certaines tranches de frictionless et bang. Ah bah oui, mais c'est pas moi qui ai tendu la perche. Non, plus sérieusement, donc il y a cette partie fraude là. Donc aujourd'hui, je travaille avec Peplug. Quand on va passer là avec l'orchestrateur, on va avoir une politique de multi acquéreur. Donc il va falloir bien se poser la question comment on va gérer la fraude, parce que je vais pas payer un fraud manager par acquéreur. Donc il faudra qu'on remonte la gestion de la fraude au-dessus. Donc potentiellement avec des solutions automatiques de fraude. Alors on parle en effet d'IA. Il y a des super solutions et aussi dans la salle sur ça. Mais moi je suis précautionneux parce que tout est automatique et ça peut vite bloquer faire des faux négatifs, ce que je ne veux pas.
Si je peux me permettre sur la fraude, ok, il y a l'avènement de l'IA qui est un super outil, mais après, comme tu l'as dit, il faut des fraud managers pour pouvoir le lire et le faire évoluer. Parce que mettre des règles en place tout de suite selon tes use cases, forcément ça évolue, les fraudeurs ils sont toujours plus intelligents que nous. Et donc, je ne suis pas sûr que l'IA règle tout.
Ben, c'est ce qu'on voudra tester. Nous, aujourd'hui, on va être clair, hein, c'est il y a des trous à des moments, il y a de la fraude qui passe. Donc, on bouche le trou. Moi, je voudrais avoir une solution qui me renforce le mur pour pas que ça passe du tout dès le début. Et pour ça, bonne transition, on en revient. Nous, en fait, la fraude, on le voit, c'est l'usurpation d'identité. On nous vole soit des comptes avec un historique, parce que c'est le plus facile, hein. Pour passer toutes les règles de fraude, il faut avoir un compte avec un historique. Donc ça, c'est un vrai souci, l'usurpation d'identité. Aujourd'hui, nous, on n'a aucun outil qui travaille là-dessus. Ça, il faudrait le faire. Et la fraude, au global, aujourd'hui, notre plus grosse fraude chez Maisons du Monde, mais parce qu'on ne vend pas d'iPhone ou de Dyson ou de produits qui sont des produits de fraudeurs et de recel. Mais en fait, on a beaucoup de friendly fraude. Et surtout là. Et le problème, c'est que la friendly fraud, c'est des clients historiques, des très bons clients, souvent, qui se mettent à nous faire une petite arnaque par-ci, par-là, ça marche, et ils continuent. Ça, c'est compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, notre sujet fraude, il va être plutôt, un, remonter à une règle, on va dire, de 3DS, de SCA, frictionless, pour ceux qui comprennent. Donc, plus en amont de tous mes acquéreurs quand j'aurai l'orchestrateur et surtout mettre un outil de fraude pour lutter usurpation d'identité la Friendly Fraud. Et depuis un an et demi, deux ans, on s'est mis à faire beaucoup de promos chez Maison du Monde, comme tout le marché. Et on a beaucoup d'arnaques à la promo. Des gens qui arrivent à cumuler parce qu'il y a tellement de systèmes de promos, de plein de choses, de cartes cadeaux vendues avec de la remise, du cashback. Ben en fait, il y a des gros profiteurs, on en a attrapé avec beaucoup, beaucoup de volume qui profitent de ces choses-là. Et donc voilà. Pourquoi, ça, c'est de la fraude aussi. Et voilà pourquoi on voudrait un outil externe.
Et qu'est-ce qu'on fraude chez Maison du Monde ? Sur quels produits les fraudeurs sont appétants ?
Alors, la fraude au paiement, enfin là où on a des gens qui passent le 3DS, on peut l'appeler ou c'est de la fraude, hein, parce que c'est quelqu'un qui a utilisé la carte, c'est à 70% de la carte cadeau. Donc ça, j'en ai tout le temps. Hein. Je suis tout le temps en train de scanner. On surveille tout le temps avec Olivier et Ulysse. Les derniers, c'était en Italie. Ben voilà. Alors eux, ils n'avaient pas voulu 3D Secure, mais ils nous ont fait des achats. Et ça, c'est une seule personne. Hein. C'est quasi personne. Hein. C'est quasi sûr. Il a fait aller 9000 euros d'achat de cartes cadeaux. Des cartes cadeaux à 50,90 € pour passer pile poil sur le frictionless. Donc on les a détectés très vite. Moi, j'ai récupéré les cartes. J'ai demandé vite de me donner les statuts et de pouvoir les bloquer. Et en fait, ils le font dans la journée. Ils vont en magasin. Ils achètent un magasin et ils se barrent. Direct. C'est fou. Et en fait, là, c'est sûr que c'est une personne ou deux personnes ou deux ou la famille ou les copains. Donc ça, c'est aussi de la friendly fraud. Ils ont chopé des cartes de numéros volés qu'on peut trouver partout aujourd'hui. Hein. C'est assez facile à en acheter. Et il y avait dû avoir le petit fascicule disant, tu vas chez Maison du Monde, tu achètes en dessous de 90 €, tu es sûr qu'il n'y a pas le 3DS hein, et ça passe. C'est ça qu'il y a sur le dark web aujourd'hui. C'est des fascicules par marchand, toutes les petites combines faites pour le petit fraudeur et vendues par les gros fraudeurs. Quoi.
Je pense que l'exemple est parlant et je pense que Enfin, moi, ça m'inspire de sujet. C'est quoi le risque dans le paiement, en fait ? Il y en a deux structurels. Le premier risque, c'est que quelqu'un ait pris, lit l'identité de quelqu'un d'autre. Donc, historiquement, c'était via des fraudes à la carte. Maintenant, ça va être effectivement de la compte takeover. Enfin, en gros, il y a énormément de sophistication là-dedans. Donc, ça, c'est le premier risque. Que quelqu'un vienne chez vous, se fasse passer pour quelqu'un d'autre, fasse une transaction, finalement, et que vous en assumiez les conséquences. C'est pour ça que quand vous considérez l'authentification, par exemple, comme une friction, vous pouvez aussi le considérer comme une sécurité. Liability shift. En gros, moi, commerçant, je ne suis pas forcément équipé pour lutter contre tout Internet. Je vais faire confiance à des systèmes dont c'est le métier qui vont avoir plus d'informations. Je vais accepter un peu de friction si jamais, je peux transférer mon risque. C'est la fameuse discussion de comment on réfléchit en fait non plus à un KPI à un moment donné, mais à une KPI à un moment donné, mais à une stratégie globale. Donc le premier principe de base en fait quand vous réfléchissez à vos stratégies de paiement, c'est finalement quelle est ma capacité à prouver ou non l'identité, parce qu'à la fin ça revient à l'identité de la personne qui transacte. Ça c'est le premier gros et c'est vrai que on voit apparaître un niveau de sophistication pour prendre en fait l'identité de quelqu'un. Et un deuxième biais qui est, et pour des raisons qui moi, enfin, j'arrive pas toujours à comprendre, mais en tout cas, la friendly fraud, c'est devenu, entre guillemets, quasiment aussi gros ou plus gros, que la fraude classique. Et c'est-à-dire qu'en fonction des industries, effectivement, c'est vrai que c'est un sujet. Et ça, c'est très, très dur parce qu'en fait, lutter contre la friendly fraud, en fait, ça revient à inviter des gens à dîner et à partager un dîner et à se poser la question de qui empoisonne les autres. Parce qu'en fait, vous allez commencer à devenir parano et vous posez la question de savoir si vos clients en fait sont vraiment vos amis ou si potentiellement vos clients sont les fraudeurs. Donc ça, c'est un sujet qui est très très compliqué. Le deuxième sujet structurel en fait de la fraude et du risque, en fait, c'est le risque du défaut de paiement. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de codes d'erreur qui sont des cards nomonie, qui est de nouveau en fait un peu un jeu de devinette, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que la personne qui est en face de moi va être capable de payer. Donc évidemment, si c'est un ticket de métro à 1,70 € jusqu'au JO, ça permet, il n'y a pas de doute, mais si vous avez en fait un achat de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers d'euros, En fait, ça, la banque de cet acheteur-là peut légitimement se poser la question de savoir, est-ce que cet acheteur, est-ce que Grégoire, si demain moi j'achète une voiture en ligne, ma banque peut, avec ma carte, ma banque peut se poser la question de savoir si je vais être, capable d'honorer cette transaction. Et donc c'est aussi comprendre en fait ce deuxième levier de risque qui vous permet de mettre, en place des stratégies et d'aller vers différents rails, d'aller vers différentes solutions de paiement, en fait pour vraiment, répondre à ces deux questions structurelles de risque, c'est-à-dire est-ce que j'arrive à prouver l'identité de mon acheteur, est-ce que j'arrive à comprendre, la solvabilité financière de mon acteur. Quand vous arrivez à avoir des réponses à ces deux questions, à ce moment-là, vous pouvez commencer à, construire des stratégies de paiement en fait, qui sont adaptées et qui vont maximiser la conversion tout en, entre guillemets, vous protégeant. Et c'est ça, en fait, le sujet qui est très, très important. Et donc, c'est une sorte de flux dynamique, entre guillemets, entre ces différents éléments. Et donc, parfois, il ne faut pas lésiner sur, en fait, aller payer une authentification ou un 3DS parce qu'en fait, il y a une vraie décision de, risque derrière où, en fait, vous transférez le risque à quelqu'un qui va être mieux positionné que vous pour le, porter.
Et toi, Grégoire, chez ProcessOut, du coup, comment tu gères parce que ce multi-acquéreur et comment, tu accompagnes tes marchands là-dessus sur qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour bien lutter contre, contre tout ça, quoi, usurpation, fraude au paiement, tout ce qui va avec.
Alors, déjà, on essaie de le faire au mieux, c'est-à-dire que je ne prétends pas avoir la réponse universelle pour tout le monde. Et en fait, c'est pour ça que quand on donnait l'exemple de... En fait, c'est vrai qu'on lance un moyen de paiement, on lance quelque chose en 3 ou 4 semaines. Donc ça, c'est vrai, effectivement, en un clic, même ça peut aller plus rapidement. Mais en fait, c'est tout le travail qu'il y a derrière de se dire, bah, en fait, c'est quoi la stratégie? C'est quoi la stratégie derrière, en fait, l'utilisation de ce tuyau? Parce qu'en fait, finalement, à la fin, on a plein de tuyaux, plein d'outils. Et donc, il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments, on va dire, structurels. C'est-à-dire qu'on va, regarder avec les data qu'on peut avoir, avec les data que nos partenaires peuvent avoir, en fait, quels sont les niveaux structurels de risque, à la fois en termes de risque de défaut de paiement ou risque de défaut de paiement ou en risque au niveau de la fraude d'identité. Donc on va avoir, on va dire, un peu des recettes macro qu'on va appliquer à tout le monde. Et puis après, en fait, on va travailler individuellement avec finalement nos commerçants. Donc chez nous, les commerçants sont couverts. Ils ont un account manager qui est dédié. Ils ont un implementation engineer qui est dédié. Donc en fait, l'account manager comprend globalement les KPI business. L'implementation manager, tu diras pas que j'ai écorché leur titre parce que sinon ils vont tous démissionner. Mais l'implementation manager, en fait, lui, il va connaître le flow technique du marchand. En fait, il va savoir ce qu'il peut utiliser, comment. Et puis derrière, en fait, on a des data scientists qui travaillent aussi, en fait, sur les flows de ces marchands-là, pour essayer de comprendre, en fait, les risques. Et puis après, en fonction de ça, avec les différents providers, on en revient toujours au même sujet. Soit on va travailler avec, par exemple, d'ailleurs en général c'est une combinaison, les différents modèles de scoring des uns et des autres, donc de l'acquéreur, du scheme, de l'issueur pour certains. Alors, pour aller travailler avec l'issueur, il faut vraiment être un gros issueur, faut vraiment être un gros marchand, d'où l'intérêt potentiellement de passer aussi par des gens qui ont des relations avec les issueurs en direct. Et donc en fait c'est un mix de tout, et c'est des réunions toutes les semaines, toutes les deux semaines avec des revues de performance, des revues de KPI, des tests à côté.
Donc c'est tout in-house. Tu fais pas appel à d'outils extérieurs pour.
Alors justement, nous le pari de ProcessOut depuis le début, ça a été de se dire en fait, nous on va simplement être un enabler. Donc nous on ne fait entre guillemets rien. On a notre vault qui nous permet en fait, on va faire uniquement des éléments qui vont permettre de la simplicité et de la flexibilité et c'est ce qui va délivrer de la performance. Et donc c'est-à-dire qu'on va tout faire en fait pour que le e-commerçant soit flexible. Donc on va avoir notre propre vault, on va avoir notre propre token, on va avoir en fait nos propres connexions avec tous les éléments. Et derrière, on va justement aller voir les meilleurs du marché. Donc on va aller voir les systèmes de fraud scorer, on va aller voir les systèmes d'authentification, les acquéreurs. Et en fait, on va travailler avec tous ces gens, pour délivrer la performance. Mais le parti qu'on a toujours pris, c'est de se dire, en fait, ce serait illusoire de penser qu'on peut être les meilleurs sur tout. Et donc, en fait, on va plutôt être un moyen pour les gens de travailler en fait, avec la solution qui leur convient.
Ouais, non, tout à fait. On en revient toujours au sujet d'interconnexion. Et en fait, tu vois, tu l'expliquais, Jérôme, la fraude, elle bouge chez vous. Et en fait, c'est autant un sujet que le payment manager, dans le sens où en fait il y a aussi un truc très manuel, c'est l'IA te pond des règles, et te donne des comportements pour savoir qui sont les vrais users, qui sont les mauvais users. mais en fait, il faut faire des tests avec les data scientists qui testent des règles en fonction de ce que leur sort la, machine. Faire des A/B testing. 2 semaines, on met cette règle. On voit si ça fait exploser le taux de false positive ou non. On voit si ça fait réduire le nombre de chargebacks, etc. Et en fait, c'est un constant maillage et travail sur, en tout cas, les gens, nous, qu'on a chez MangoPay, donc dans Neton, qui ne fait que de la fraude. Et aussi, au même titre que les méthodes de paiement, il y a une régionalisation de la fraude, dans le sens où partir sans outils de fraude, par exemple, en Amérique latine, c'est très cavalier. Mais j'en ai pas vu encore.
Juste un dernier point pour rebondir sur IA ou pas IA. IA. Nous, notre perception et notre sujet, c'est qu'en fait, ce qu'il faut, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que vous avez un mix des deux. C'est-à-dire que vous allez définir des règles qui vont en fait définir le cadre dans lequel les algorithmes vont pouvoir jouer. Et ça, c'est très très important parce que en fait, si vous laissez des algorithmes jouer, on va dire sans cadre, en fait, ça va donner des choses complètement absurdes. Ce qu'il faut donc bien, c'est travailler avec les différents acteurs que vous avez. Et en fait, on parle des contrats techniques, on parle des contrats économiques, parce qu'en fait, il y a des enjeux bêtes, mais il y a des enjeux de cross-border, il y a des enjeux de change, il y a des enjeux de... Et donc, de mettre en place des systèmes de règles fixes qui vont définir les règles du jeu pour en fait, finalement, aider les algorithmes à aller taper dans les bonnes décisions et effectivement, après, A/B tester en permanence.
Une stratégie d'entonnoir, en fait.
Exactement. Et donc, c'est un travail... en fait, pour moi, le sujet de l'IA, c'est pas vraiment un sujet de tiens, on va arriver à délivrer de la performance que l'humain n'arrive pas.